Santé.
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 C'est bon pour la 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 santé. Bon midi, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas qui a fait ce bruit. C'est de la faute à qui? On ne le saura pas tout de suite. Marianne Paquette avec vous pour les 60 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant. Aujourd'hui, à l'émission, comment mettre en lumière des exemples de services et d'initiatives, de pratiques aussi, qui ont réussi à soutenir les proches aidants de façon efficiente. C'est ce dont je parle avec Chantal Desjardins, les conseillères aux régions et coordonnatrices aux projets spéciaux pour l'appui pour les proches aidants d'aînés. Aussi, Michèle Thibault, directrice adjointe à l'école Hubert, c'est une école qui est située à Rimouski, nous parle de l'inauguration d'une salle de motricité destinée aux élèves en situation de handicap. Également, Québec Science qui a sélectionné cette découverte québécoise parmi les plus marquantes de l'année 2016. Ce n'est pas rien, ça. Comment repérer plus efficacement le virus du VIH afin de l'éradiquer? Et j'ai la chance d'en parler tout à l'heure avec le chercheur derrière cette recherche, derrière cette découverte. Il sera avec nous en studio, le docteur Daniel Kaufman. Il est au service de microbiologie et maladies infectieuses du CHUM. Et dans quelques minutes, ce sera le baptême de chronique de Marie Lalande. Ici, c'est bon pour la santé. Bien sûr, vous connaissez sa voix à Marie, mais elle débutera une nouvelle chronique portant sur la littératie familiale. Elle viendra nous visiter. On aura cette chance de façon mensuelle tout à l'heure, dans quelques instants. Mais avant, Martin Forgue, recherchiste de cette émission pour la revue de presse de la semaine. Martin Forgue, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Lorsque vous avez une idée en tête, Martin, vous continuez ce récit et cette histoire. Et là, c'est toujours la saga des transferts fédéraux que vous nous proposez cette semaine. Ça se poursuit, ça, cette saga-là.
On suit l'histoire de très près, Marianne, comme vous venez de le mentionner. Donc, ces transferts fédéraux en santé, on sait que c'est une gigantesque pomme de discorde au goût très amer dans la bouche des différents ministres de la Santé provinciaux. Eh bien, cette alliance rebelle que le ministre Barrette avait baptisée pourtant le front majoritaire, eh bien, continue de s'effriter. Santé Canada qui a passé des nouveaux accords avec les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Yukon, ce qui porte à 6 le total des provinces et des territoires qui ont passé des ententes avec le fédéral. Et donc, il ne reste désormais que 7 provinces, dont le Québec et l'Ontario, qui, elles, sont quand même celles qui reçoivent la part du lion de ce gigantesque gâteau. Donc, le Québec doit recevoir 8,49 milliards en 2017-2018. Pour l'Ontario, on parle de 14,33 milliards, ce qui est énorme comparativement à, par exemple, le Nouveau-Brunswick qui recevra quant à lui 230 millions de dollars sur 10 ans, notamment là, pour dans le cadre de ces nouvelles ententes. Et je vous rappelle l'offre du gouvernement fédéral là, qui était une augmentation de 3,5% par année de ces transferts fédéraux. 11,5 milliards de dollars en 10 ans dans un fonds qui serait dédié à la santé mentale et aux soins à domicile. Et évidemment, bon, les provinces réclament davantage. On veut plutôt 5,2% des transferts en santé. Et on rappelle aussi, bon, que le fait que la santé soit une juridiction de compétence provinciale, eh bien, que le fédéral s'immisce dans la répartition des fonds, eh bien, on n'aime pas ça.
Vous parliez tout à l'heure, Martin, de pommes. J'ai l'impression que c'est le gâteau, moi, la part du gâteau que l'on tente de se partager. Mm-hmm.
Et
ben, comme dans des familles nombreuses, hein, ça crée des disputes, on veut une part égale, mais bon.
Et c'est l'heure du lunch.
Voilà. On poursuit maintenant l'Institut de recherche d'information socio-économique, l'IRIS, qui recommande le salaire des médecins.
Oui, un article du Devoir là, auquel je me suis référé parce que, bon, la recherche qui fait près de 100 pages est sortie tout juste ce matin. Donc, le Devoir qui en parle, des recommandations dans une étude de l'IRIS qui s'appelle l'allocation des ressources pour la santé et les services sociaux au Québec, état de la situation et propositions alternatives. Oui, c'est une bonne bouchée de mots quand même. Et donc, on recommande dans cette étude que les médecins gagnent un peu moins qu'ils gagnent actuellement. On propose le retour au salariat plutôt que le format un peu plus entrepreneurial qui existe actuellement. Mm-hmm. Présentement, les médecins font 7,6 fois le revenu moyen des Québécois selon cette étude. On voudrait ramener cette proportion à 4 fois, ce qui permettrait, encore une fois, selon l'étude, une économie de 4,3 milliards de dollars par année. Et là, on fait des suggestions pour le réinvestissement de ce montant. On voudrait restituer l'autonomie des CLSC, on voudrait accroître leur pouvoir, on voudrait également leur assujettir les groupes de médecine familiale, et parce qu'on dit que, justement, le modèle des GMF privilégie une approche qui est très centrée sur le médecin, le CLSC un peu plus holistique, et donc on voudrait revenir à cette façon de faire. Donc, par contre, il faut rappeler que l'IRIS est un institut de recherche à la ligne extrêmement progressiste, donc il n'y a rien de surprenant dans ce type de recommandation. Et aussi, on rappelle que le modèle québécois est calqué directement sur le modèle du National Health Services britannique, et donc on voudrait ramener cette proportion de 4 fois le revenu moyen. C'est la proportion qui existe en Angleterre, selon l'étude de l'IRIS.
Le titre de l'étude est une grosse bouchée à mâcher, comme vous le disiez,
Martin. On est dans
une
thématique alimentaire. Hein?
Oui, voilà, mais c'est aussi 100 pages. Donc, si ça vous intéresse à la maison de lire l'étude au complet, ben, c'est sur le site de l'IRIS.
Le Devoir le résume très bien, par contre.
Voilà. Maintenant, une nouvelle qui pourrait paraître alarmante du côté de la Mauricie et du centre du Québec, mais vous nous ramenez un petit peu à l'ordre quand même, Martin. Mmh. 22 morts en Mauricie suite à des accidents, des erreurs dans le réseau de la santé.
Oui, donc, le rapport 2015-2016 qui, bon, comme vous le dites, on dit que les incidents et accidents médicaux ont coûté la vie à 22 personnes seulement dans la région Mauricie-Centre du Québec. Donc, ça semble extrêmement alarmant, comme vous dites. Aussi, on parle de 32 564 incidents et accidents dans le même rapport. Ça peut être, comme vous dites, on regarde ces chiffres-là, ça semble catastrophique. On dit aussi que les 2/3 des événements qui ont été déclarés touchent des personnes âgées, qui sont souvent victimes de chutes, des erreurs par rapport au dosage des médicaments. Mais vous l'avez dit en préambule, il faut quand même relativiser les choses parce qu'on rappelle du côté de la direction du CIUS Mauricie-Centre du Québec qu'on a environ 200 000 visites à l'urgence, 70 000 hospitalisations. Ouais. C'est des millions de médicaments qui sont donnés au cours d'une année. Donc, ça vient un peu relativiser ces chiffres-là. Mais quand même, on pointe beaucoup du doigt du côté des syndicats. On rappelle de leur côté, on cite beaucoup le manque de personnel, donc il y a beaucoup de réorganisations. Oui, il y a des causes à tout ça, exactement. Et on disait, par exemple, la présidente du syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires du Cœur du Québec, qui dit que on devait s'attendre à cette augmentation d'incidents, parce qu'on parle d'une augmentation par rapport à l'année précédente, et on parle aussi de surcharge de travail également. Évidemment, tout ça dans le contexte de toutes ces réorganisations administratives qui ont été faites. Il y a également l'avocat spécialisé en droit de la santé, Maître Jean-Pierre Ménard, qui s'en est mêlé, qui est d'accord avec les syndicats et qui a dit « Je pense qu'au Québec, il y a juste une personne qui dit qu'il ne manque pas de personnel dans les hôpitaux, c'est le docteur Barrette. » Et je cite Maître Ménard ici.
Martin, on reviendra la semaine prochaine à la santé des enfants autochtones parce qu'il nous reste très peu de temps, quelques secondes. J'ai envie de finir quand même sur ce que l'on apprenait hier, la FIC qui demande au ministère de la Santé de retirer des pubs qui peuvent paraître pour certains bien efficaces et pour d'autres un peu moins. Moi, j'étais un peu mitigée, j'étais un petit peu ambivalente sur ces publicités-là.
Elles ont quand même fait réagir. Hein?
Oui, tout à fait.
On rappelle, le slogan, la thématique, on disait « Deviens expert en humain ». Donc, une catégorie quand même assez vague, hein? Un expert en humain. Et donc, on s'est insurgé. On a dit notamment que c'était un slogan qui était un peu vide, hein, qui disait, c'est ça, si t'es pas bon dans ce que tu veux faire, va en santé parce que tu vas être un expert en humain. Une espèce de grande catégorie très large.
Ce que les gens reprochent à la publicité, c'est qu'une carrière dans le domaine de la santé, ce n'est pas un plan B. C'est à discuter, bien sûr. Est-ce qu'on a des idées de la suite? Est-ce qu'on sait si la FIC pourra remporter cette demande-là? On ne le sait pas encore. Mais peut-être que la semaine prochaine, vous pourrez nous revenir.
On fera un petit suivi là-dessus.
Tout à fait, Martin Forgue, recherchiste de cette émission. Merci beaucoup.
Bonne semaine.
Marie Lalonde, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Je pense que c'est votre chaise qui faisait du bruit.
C'est ma chaise, c'est moi la coupable. En fait, c'est ma chaise la coupable. J'ai changé de chaise.
Ben voilà, et maintenant, ben, c'est votre voix que l'on entendra et plus cette chaise un peu grinçante. Et vous êtes ici, nouvelle chroniqueuse dans le cadre de C'est bon pour la santé pour une série sur la littératie familiale. Une fois par mois, on a cette chance-là, Marie. Mmh, parce que dans une autre vie, vous étiez conseillère pédagogique, enseignante au primaire aussi. Vous avez fait ça pendant des années.
J'ai fait ça pendant plus de 30 ans, en fait. Enseignante au préscolaire avec les tout-petits d'abord, puis ensuite avec les élèves au primaire, puis ensuite les 13 dernières années, conseillère pédagogique de français au primaire.
Oui.
Donc, j'ai travaillé avec les enseignants, les enfants, puis les parents aussi.
Oui, voilà, oui. Les familles hein, qui ont un impact, et on le verra un petit peu plus tard, dans la responsabilité. C'est pas juste à l'école, hein, ce qui a trait
à... Un rôle partagé.
Voilà. Maintenant, on a fixé ce sujet-là ensemble, la littératie familiale, parce qu'on considérait que c'était important dans le développement de l'enfant, mais aussi dans tout ce qui est compétences scolaires et après, tout ce qui est lié au décrochage, ou plutôt au fait de rester à l'école et de continuer d'y aller.
Oui.
Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi la littératie familiale au
Qu'est-ce que
départ?
C'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, la définition d'après le dictionnaire, quand on parle de littératie, on se réfère au mot anglais, literacy, qui fait référence au niveau fonctionnel de connaissance de l'écriture et de la lecture. La littératie familiale, ça réfère à toutes les activités de lecture et d'écriture de la vie quotidienne qu'on peut vivre à la maison.
Mm-hmm.
Et donc, parce qu'on fait quelque chose avec les enfants parce qu'ils sont petits, puis la stimulation que donnent les parents influence le développement de la littératie chez l'enfant. On parle de programme, parfois, de programme de littératie familiale. Le but de ça, c'est d'augmenter les pratiques dans les familles, les interactions parents-enfants autour de tout le langage de l'écrit. Il y a des familles pour qui c'est plus naturel et d'autres familles pour qui ça demande un petit coup de pouce, un petit peu d'éducation, d'information. Puis c'est un peu ce qu'on va faire.
Oui.
Aujourd'hui, puis les prochaines collaborations aussi. Dans les programmes de littératie familiale, les parents sont encouragés à lire régulièrement un livre ou des livres à leur enfant. On leur enseigne à le faire, on leur enseigne comment le faire, puis l'idée, c'est de parler autour du livre et du monde de la lecture, questionner les enfants. On peut aussi, dans ces programmes-là, mettre en place un système de prêt de livres, parce que ça aide beaucoup dans des familles où le livre est moins présent. Je vous donne un exemple de ce que j'ai fait. On réfère toujours à ce qu'on connaît.
Oui.
Comme conseillère pédagogique, j'ai accompagné des enseignants dans des ateliers, dans un programme de littératie familiale. Celui-là, c'était offert aux parents d'élèves de classe d'accueil, donc qui viennent de partout. Et on parlait des élèves de maternelle, 5 ans.
Mm-hmm.
Alors, on leur offrait 10 ateliers. Je ne vous les nomme pas tous, mais je parle de quelques-uns. On mettait l'accent sur le fait que c'est important de lire à la maison avec nos petits pour le plaisir.
Mm-hmm.
Ensuite, on donnait aux parents, d'une part, des repères pour savoir quoi faire. Comment on fait ça avant? Comment on présente le livre? Comment on l'amène? Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on fait la lecture? Par exemple, on s'arrête à un moment précis de l'histoire juste pour susciter l'envie d'aller plus loin. On suggère aux enfants de faire des hypothèses sur ce qui s'en vient, ce qui pourrait arriver. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire après quand on en discute? C'est qui ton personnage préféré? Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses de ce livre-là? Est-ce que tu as aimé ça? Pardon, pourquoi? Dans un autre atelier, on a fait faire aux parents un abécédaire.
Mm-hmm.
Par exemple, avec du découpage de prospectus publicitaire. Pour chaque lettre, trouver une image et illustrer le mot. On a fait des ateliers de bricolage, des ateliers de cuisine, parce qu'on fait voir l'utilité de la lecture ici quand on a des consignes à respecter, par exemple.
La lecture, c'est pas nécessairement que dans un livre de lecture.
Tout à
ça
fait.
Peut servir dans le quotidien. Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, Marie, ce qui est valorisé ou favorisé ou proposé, c'est que le parent peut lire dans sa langue maternelle
aussi.
Tout à fait. C'est de valoriser tout ce qui est l'éducation, la culture familiale.
La culture des familles diffère d'une famille à l'autre. Oui. Ça peut être à cause de la langue, ça peut être à cause de la défavorisation, de la situation socio-économique. Il faut respecter ça. Il faut que les écoles et les garderies, les services de garde, soient conscients de ça. Il faut prendre les gens où ils sont. Par exemple, avec les familles d'accueil, on suggérait aux gens de lire dans leur langue maternelle. Les stratégies de lecture sont les mêmes. Oui. Ce qu'on fait avec les livres, c'est la même chose. Alors, pourquoi pas le faire dans sa langue maternelle?
Et ça pourrait être autour que d'un livre, la littératie. C'est-à-dire que là, on a parlé de livres de lecture, mais une recette, comme vous l'avez mentionné, chanson...
Des consignes de jeu, oui, de société, par exemple, il faut les lire. Il faut faire voir que la lecture, ça peut être amusant, ça peut être utile. La perception avec laquelle les enfants arrivent à l'école sur la lecture est très déterminante.
Oui.
Plus les enfants comprennent que la lecture, c'est utile, ça sert à quelque chose, plus ils réussissent à l'école. Quand on leur demande à quoi ça sert de lire, quand les réponses reviennent, c'est comme des réponses qui tournent en rond, ça sert à apprendre les lettres, ça sert à apprendre les mots. La conception de la lecture n'est pas juste à ce moment-là, et c'est un prédicteur, ça, d'enfants qui ne réussiront, oui, pas, ou moins bien que d'autres.
Et ça revient à la raison pour laquelle, voilà, on a choisi ce sujet-là.
Et pourquoi, donc, des programmes de littératie familiale? Pourquoi c'est important de le faire à la maison? Parce qu'on a découvert, et c'est des données très récentes, on avait publié une étude, l'Institut de statistique du Québec a publié en novembre 2016 les résultats de cette étude qui a suivi 2000 enfants entre 5 mois et 15 ans, c'est pas rien. Quand même, c'est un échantillon assez important. Et on a découvert dans cette étude-là que les enfants dont l'entourage stimule le goût de la lecture à un très jeune âge réussissent mieux à l'école. Au Québec, autre portrait de la situation, la proportion de jeunes qui quittent l'école secondaire sans diplôme est importante encore aujourd'hui. Chez les garçons, par exemple, il y a 38 % des élèves des écoles publiques qui sortent de l'école secondaire sans diplôme. Mm-hmm. Chez les filles, 24 % sans diplôme. Quand on ajoute...
C'est trop. C'est beaucoup
énorme.
Trop.
C'est énorme. Puis quand on compare ça à des statistiques d'ailleurs, au Canada, chez nos voisins en Ontario, il y a 92 % des élèves qui réussissent à sortir avec leur diplôme, oui, parce qu'on valorise ça autrement dans la société à ce moment-là.
Il y a deux choses que vous venez de mentionner, Marie, qui me semblent assez intéressantes et on devrait se quitter là-dessus, c'est l'entourage.
Oui.
Donc, la responsabilité, oui, il y a papa, il y a maman, donc les parents, mais il y a aussi tous les autres adultes signifiants. Ça peut être la bibliothèque, on a parlé de l'école aussi, oui, beaucoup aujourd'hui, il y a les grands-parents.
Oui.
Tous ces adultes-là peuvent avoir un impact.
Un impact positif sur la motivation à apprendre à lire, sur ses enfants. Puis c'est une responsabilité qui est partagée. Ça peut être un grand frère, une grande sœur. Ouais. L'idée, c'est de donner des modèles puis de s'impliquer. On donne le bain avec les enfants, les tout-petits, là, avec des livres qui peuvent aller dans l'eau. On peut jouer avec les lettres. L'idée, c'est de partager cette responsabilité-là.
Et il y avait le décrochage, 38 % chez les garçons. On propose aussi d'intégrer le papa parce, oui, qu'il a une approche différente. Il a beaucoup sa place dans cette relation-là aussi.
Le papa, le grand-papa, les grands frères. L'idée, c'est de faire voir même aux garçons que la lecture, ça peut être agréable. Puis, dans les prochaines chroniques, je vous présenterai des exemples de ça.
On peut aller regarder cette vidéo que vous nous proposez, courte vidéo, 6 minutes et des poussières sur le site du gouvernement éducation.
Ministère.
Voilà, education.gouv.qc.ca pour une petite introduction à la littératie familiale. Ouais. Et nous, on se permettra une fois par mois d'en parler avec vous, Marie Lalande. Vous êtes une conseillère pédagogique, enseignante, bon, maintenant retraitée. Et c'est nous qui avons la chance de vous avoir.
Merci.
Merci.
Thank you.
Docteur Daniel Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez au service de microbiologie et maladies infectieuses du CHUM, également chercheur. Et c'est un petit peu pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Et c'est pas rien, une découverte qui fait partie des 10 découvertes les plus marquantes de l'année, ici au Québec, de l'année 2016, pour repérer plus efficacement le virus du VIH, pour l'éradiquer. Ça touche encore énormément de personnes au Canada, le virus du VIH, 75 000 personnes, 36 millions dans le monde. Bien sûr, il y a des médicaments de plus en plus qui servent à traiter la maladie, mais encore faut-il trouver le virus et il peut se cacher, ce virus-là, dans nos cellules. Et c'est ça, en fait, qui cause un petit peu le problème et que ça devient difficile à traiter.
Oui, tout à fait. Alors, pour mettre les choses en perspective, le virus du sida, que l'on appelle aussi VIH pour virus de l'immunodéficience humaine, est un virus qui s'attaque aux globules blancs. Mm-hmm. Les globules blancs sont une population de cellules spécialisées que l'on trouve dans le sang, mais aussi dans les tissus du corps et qui constituent ce qu'on appelle le système immunitaire. Ces cellules sont chargées de défendre le corps, en particulier contre les microbes, les virus, les bactéries. Mais parmi les globules blancs, le virus du sida infecte surtout une population de cellules qu'on appelle lymphocytes CD4.
C'est les globules blancs, voilà, c'est une sorte de globule blanc.
Une sorte de globule blanc qui sont des coordinateurs importants du système immunitaire, voilà. Une sorte de chef d'orchestre. Et le virus du sida cause une infection chronique et avec le temps, ces CD4 déclinent, sont détruits et ceci rend le corps susceptible à de multiples infections.
C'est ce qui fait que souvent les personnes qui sont touchées par le VIH sont plus susceptibles de développer des pneumonies, des grippes, des maladies finalement qui attaquent leur système immunitaire. Maintenant, votre recherche, en fait, ce n'est pas un traitement, c'est important de le dire, c'est une technique pour détecter le virus qui peut se cacher, en fait, qui peut être très, très discret, finalement, dans nos globules blancs, dans ces cellules-là. En quoi elle consiste, cette technique-là?
Oui. Alors, effectivement, si les traitements peuvent bloquer la multiplication du virus, ça ne l'élimine pas. Et il reste caché dans de très rares cellules du corps, et si on arrête le traitement, il peut se réveiller. Alors, si on veut développer des traitements qui vraiment permettraient d'éradiquer le virus, on doit cibler les populations où reste le virus. Mm-hmm. Cependant, ces cellules sont très rares, sont de l'ordre de 1 sur 1 million. Et c'est le défi de les trouver, c'est vraiment trouver une aiguille dans une botte de foin.
Ouais. Alors, vous, votre technique a permis ça. De quelle façon ça fonctionne, ça? Comme on le disait, c'est pas un traitement, c'est une technique. Ça permet, c'est une intervention aussi en laboratoire. Comment vous avez procédé?
Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est d'établir une technique où on utilise des échantillons de sang de patients infectés, ainsi que de sujets contrôle non infectés. Et nous isolons les globules blancs, les CD4 dont j'ai parlé tout à l'heure, et on les marque ensuite pour des marqueurs de surface qui te permettent de différencier différentes saveurs, couleurs de CD4 qui viennent dans de multiples types différents. Ensuite, on procède à l'identification à l'intérieur des cellules, au marquage, de parties du virus. À la fois les gènes du virus, donc le code génétique du virus qui contient l'information, ainsi que des protéines du virus. Et c'est après ceci, on analyse les cellules avec une machine complexe qu'on appelle un cytomètre et on analyse plusieurs millions de cellules afin de détecter celles qui sont infectées.
Ouais. En les détectant ainsi, ce qui devient plus efficace, c'est le traitement, c'est le médicament. Vous pouvez être beaucoup plus efficient avec le médicament pour traiter le virus.
Alors, en principe, le but, c'est d'utiliser ce genre de technique pour identifier les cellules sur lesquelles on doit intervenir. Alors, la preuve de principe qu'on a faite, ce n'est pas un traitement, comme vous l'avez mentionné, mais c'est de voir si on traite les cellules de patients avec des médicaments qui sont aussi testés en clinique. Qu'est-ce qu'il arrive? Où est-ce qu'on arrive à réveiller le virus? Et d'abord, on a réussi à avoir une technique qui est 1000 fois plus sensible que ce qui se fait d'habitude dans le laboratoire. Donc, ça change complètement ce qu'on peut faire. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ces médicaments, qu'on appelle les agents réverseurs de la latence, c'est un mot un peu technique qui dit qu'on peut réveiller le virus dormant. Oui. On voit que ces médicaments peuvent agir de façon très différente selon les caractéristiques, selon le type de CD4, la couleur de CD4 qu'on vise. Donc, ça veut dire que ces médicaments peuvent avoir des capacités différentes et qu'il pourra peut-être, pour être efficace en clinique, combiner ce genre de médicaments pour réveiller le virus globalement de façon efficace.
Je veux revenir un petit peu sur cette sélection de Québec Science. Vous faites partie des 10 découvertes les plus marquantes de l'année 2016. Pourquoi, d'après vous? Qu'est-ce qu'il y a de marquant ou d'étonnant avec cette recherche-là?
Je pense que vraiment, avec cette recherche, on ouvre beaucoup de voies qu'on ne pensait pas possible ou qui étaient extrêmement difficiles avant. Parce que les chercheurs, ça fait longtemps qu'ils essayent d'identifier où se cache le virus, mais avec des techniques peu sensibles, ce sont des modèles qu'on dit de laboratoire. On infecte des cellules dans le laboratoire. On ne sait pas si ça correspond vraiment à ce qui se passe dans le corps des gens qui vivent avec le VIH. Donc, notre technique peut vraiment être appliquée directement à des échantillons cliniques, donc c'est une pertinence directe, et utilisée pour suivre des interventions cliniques, d'abord dans des modèles précliniques animaux, probablement, et puis ensuite chez des essais cliniques chez l'humain.
Oui. Ça a permis et ça permettra, je pense, autant à la communauté scientifique qu'au grand public d'en apprendre davantage sur le VIH. Est-ce que vous-même, vous avez été étonné par des découvertes que vous avez pu faire à travers ces recherches-là?
Oui, en fait, je dois dire que on est arrivé sur ce projet, ce n'était pas le but initial quand ça arrive assez souvent en recherche. La technique qu'on a mise au point en collaboration avec une compagnie de biotechnologie aux États-Unis était pour détecter l'expression de gènes des cellules, des globules blancs eux-mêmes, et non pas pour détecter des fonctions de ces cellules et pas nécessairement le virus. Et c'est en réalisant la puissance de cette technologie qu'on s'est dit, mais on peut aussi appliquer ça pour détecter le virus lui-même plutôt que les réponses du système immunitaire.
Ouais.
Donc, la qualité nous a allé au-delà de nos espérances.
Pensez-vous, en terminant, Dr. Kaufmann, que ça permettra d'éradiquer un jour complètement le VIH?
Alors, ceci, c'est une question qui reste ouverte. Alors, je pense, autant ça demandera totalement encore
du
plusieurs
temps.
Années
ouais.
du temps.
Et des chercheurs comme
et
vous,
chercheurs.
Bien sûr.
Il faut continuer. Il y a encore beaucoup d'efforts.
On
fait des progrès.
Se laisse surprendre, hein, bien sûr. Alors, on invite bien sûr les gens à aller à québecscience.qc.ca pour voter pour leur découverte. Il y en a 10. On a choisi la vôtre, Dr. Kaufmann, parce que c'est en santé. Et nous, on fait une émission de radio sur la santé. Voilà pourquoi on a mis votre découverte en lumière, mais on invite les gens à aller voter pour l'une des 10 découvertes à québecscience.qc.ca. Dr. Daniel Kaufmann, vous êtes médecin du côté du CHUM et chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Merci.
Merci de l'invitation à parler aujourd'hui.
Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous pour vous accompagner. Tout à l'heure, on discutera avec Mme Chantal Desjardins. Elle travaille pour l'appui des proches aidants d'aînés du Québec. Et on parlera de 20 projets inspirants pour soutenir les proches aidants d'aînés. Et ça, partout à travers le Québec. Donc, des pratiques, des approches innovatrices pour aider les proches aidants dans leur réalisation. Et bien sûr, aider aussi les personnes qu'ils aident, ces gens-là, ça profite à tout le monde. Mais pour le moment, on se dirige du côté de Rimouski pour parler avec Mme Michèle Thibault. Bonjour, Michèle.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'école Paul Hubert. C'est une école polyvalente. Donc, vous travaillez avec des ados. Quel est le profil un petit peu de vos étudiants du côté de l'école Paul Hubert, Michèle Thibault?
En fait, l'école Paul Hubert, c'est une école polyvalente. On reçoit principalement des élèves de secondaire 3, 4 et 5, mais on reçoit également des élèves avec certaines déficiences ou on a des classes spécialisées. Mmh. Dans le fond, on regroupe les élèves à peu près de toute la région. Fait qu'il faut être équipé pour toutes sortes de situations.
Oui, tout à fait. Et c'est un petit peu pour ça que l'on se parle aujourd'hui, Michèle Thibault, en lien avec une salle de motricité que vous avez inaugurée, et ça un petit peu avant la période des fêtes, si je ne me trompe pas. Oui. En quoi consiste cette salle de motricité, là, si on était sur place, là, qu'est-ce que l'on pourrait voir?
On verrait tout simplement un beau petit local avec des couleurs pimpantes et quelques appareils avec des balançoires. Un petit tapis musical. Dans le fond, cette salle-là a été développée parce qu'on a des groupes d'élèves qui ont des déficiences profondes, des déficiences moyennes, certains avec des handicaps physiques assez sévères. Mm-hmm. Puis c'est des élèves qui ont besoin de bouger.
Oui.
Fait que les amener en gymnase, c'est pas toujours facile. Les équipements qui sont là sont pas nécessairement appropriés. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Là, quand on a un élève vraiment en fauteuil roulant, avec vraiment paraplégique, pas seulement paraplégique, là, mais avec beaucoup, beaucoup de limitations, ça devient difficile. Donc, on a créé ce local-là. Qui permet de stimuler certains élèves par une balançoire où ils vont être vraiment installés en sécurité. On a des tapis roulants pour vraiment les mettre en action, qu'ils puissent faire un petit peu d'activité physique, mm-hmm. dans un cadre qui est rassurant pour eux autres, dans un ouais. cadre qui est familier. Hein, qui n'ont pas nécessairement à traverser, parce que nous autres, notre polyvalente, elle est énorme, et qui n'ont pas besoin de traverser toute l'école, puis des fois affronter d'autres élèves qui sont très gentils, qui sont très accueillants, mais pour eux, c'est intimidant. Mm-hmm. Fait que on a vraiment mis ce local-là qui est tout près de leur locaux de classe, puis bon, c'est ça qui est pimpant, là. Qui est vraiment ouais. beau.
Vous avez parlé, Michel Thibault, d'un lieu qui est familier, d'un lieu qui est adapté. C'est un lieu sécuritaire aussi. Ça, c'est important de le mentionner.
Oui, oui, oui. Parce que là, il a fallu vraiment s'assurer de respecter l'ensemble des normes au niveau du bâtiment de l'école, des normes du ministère, des normes de la santé, de tout le monde pour vraiment... vraiment respecter vraiment l'encadrement sécuritaire, justement, là. Mm-hmm. Pour, oui, faire une stimulation, mais on veut pas blesser personne.
Oui. Fait qu'il faut le besoin, on le comprend, vous l'avez bien nommé, Michel Thibault. Est-ce que l'idée a été peut-être lancée par les parents de ces enfants qui vivent en situation de handicap ou par peut-être vos profs d'éducation physique?
Ben, ça vient, oui, beaucoup, beaucoup du professeur d'éducation physique, M. Bernard Duchesne. Oui. Les autres sources, je vais être bien franche avec vous, c'est pas moi qui étais présente quand le projet a démarré, c'est Madame Martine Lévesque qui était directrice adjointe à ce moment-là. Moi, je récolte les fruits
ouais. du travail c'est de l'autre. C'est fun, ça, des fois.
Ah, ça arrive. Mais c'est vraiment un fonctionnement de...
De longue haleine, peut-être?
De longue haleine, oui. D'un travail d'équipe entre les enseignants, les préposés aussi qui travaillent auprès de nos élèves, nos techniciens en éducation spécialisée, les différentes directions de l'école, parce que dans le fond, c'est un travail vraiment d'équipe, là. Mm-hmm. Les gens de la commission scolaire aussi qui ont aidé, qui ont les gens des services... pour toutes les installations, quand ça a été le temps d'installer les barres au mur, des choses comme ça, là, ils ont vraiment collaboré. On a eu des idées de places qu'on ne s'attendait pas, mm-hmm. des gens qui ont trouvé des solutions.
Oui. Cette salle de motricité, on le comprend, on comprend à qui elle s'adresse, à cette population chez vous d'élèves qui vivent en situation de handicap. Elle permet à ces jeunes de bouger. Est-ce que vous avez pu voir, bien sûr, ça fait que quelques semaines que la salle a été inaugurée, mais de voir les impacts sur la santé globale de ces jeunes-là?
On a un élève, entre autres, qui a beaucoup de difficultés, qui n'aime pas être touché. Mm-hmm. Qui est vraiment un peu prisonnier de son fauteuil. Et les premières fois qu'on l'a mis dans les balançoires, là, une insécurité totale. Maintenant, dès qu'on l'amène proche, dès qu'il sait qu'il va aller en salle de motricité, le sourire de cet enfant-là,
ouais.
c'est merveilleux. Là.
Moi, je le traduis aussi par réapprivoiser son corps, mais faire oui. confiance aussi à oui. son corps, qu'il peut oui. se mouvoir, qu'il peut bouger. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est force musculaire, équilibre. C'était dans les objectifs aussi, j'imagine.
Oui, oui. Puis c'est les découvertes, c'est les stimuli par de nouvelles sensations. Il découvre des plaisirs auxquels il n'y avait pas nécessairement accès dans les conditions qu'on avait avant.
Oui.
Souvent, la meilleure installation qu'on avait, c'était notre piscine. Puis c'est très bien, c'est apprécié, puis il aime ça beaucoup, mais là, on peut varier un peu les expériences. Parce que oui. c'est des élèves qui sont longtemps avec nous à l'école.
Oui. Oui.
Fait que, ils peuvent aller voir faire de nouvelles expériences à ce moment-là.
Michel Thibault, vous avez parlé de découvertes. Les jeunes ont eu ce plaisir-là, bon, bien sûr, ça s'est fait en étapes, on le comprend, de découvrir la salle de motricité. Pour vos professeurs, on parlait tout à l'heure de M. Bernard Duchesne, il y a aussi eu cette découverte-là d'apprendre à travailler avec ces jeunes dans la salle de motricité. Est-ce que vous avez eu un écho? Comment ça s'est passé pour lui, cet apprentissage-là aussi, en tant qu'enseignant?
Oh, mais lui, il est heureux. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Fait que là, il peut se permettre de faire de nouvelles activités avec les jeunes. On peut, là, dans le fond, on a pu aller chercher de nouveaux équipements qui, mm-hmm. Qui ont pu stimuler autrement les enfants. Là, on commence à développer des fois de nouvelles habiletés. Augmenter la forme physique de nos élèves, parce que bon, dans une classe, on peut pas faire nécessairement des grands circuits, toujours aller marcher ou aller pédaler. On a des vélos, nous, dans l'école, on peut se promener, là. Mais là, en ayant des tapis roulants, on a un vélo stationnaire aussi, fait qu'on peut quand même stimuler beaucoup plus la santé physique, la capacité physique de nos élèves. Mm-hmm. Parce que plusieurs d'entre eux sont très sédentaires.
Oui.
Fait que là, on peut quand même aussi mesurer la progression autrement que de faire un tour d'école. On peut, en suivant un peu les informations sur nos équipements, on peut voir vraiment un progrès.
Oui. Et c'est une roue qui tourne malheureusement pas toujours du bon côté, c'est-à-dire que ces jeunes-là sont parfois plus sédentaires, ayant moins l'occasion d'être actifs, et les bienfaits de l'activité physique, pourtant, pour eux, sont majeurs.
C'est important.
Oui.
Oui, parce que c'est des jeunes qui sont très sensoriels. Alors, pouvoir se dépenser, aller faire, c'est des plaisirs, hein?
Ouais.
Fait qu'on en retire un gain, là. Il y a beaucoup plus de calme aussi, de sérénité chez certains des jeunes.
Chez vous, à l'école Paul Hubert, Michel Thibault, la salle de motricité va accueillir, en fait, va toucher, rejoindre 70 élèves à peu près, c'est bien ça?
Principalement. On loue aussi aux autres élèves de l'école, parce okay. que pas à tous. Mais il y a quand même des élèves qui marchent. J'allais dire marginalement, mais qui peuvent aussi en bénéficier. Mm-hmm. Alors, on a quand même, je dirais facilement, 6 classes avec des élèves qui pourraient aller aussi utiliser ces équipements-là dans un autre contexte pour d'autres besoins.
Mm-hmm.
On ouvre aussi la salle, en dehors des heures d'école, à certains organismes du milieu qui n'ont pas ces installations-là.
Oui.
Fait que là, ultimement, c'est pas encore mis en place, mais on pense, nous, à la ressource d'aide pour les personnes handicapées, mais il y a d'autres organismes ici là qui pourront avoir accès. C'est certain qu'on ne peut pas accueillir des grandes quantités de personnes. Ça demeure une toute petite salle, mais des fois, une sortie à 3, 4, 5 bénéficiaires, il peut y avoir des choses intéressantes à faire là.
Et même, j'ai pu lire à des élèves du primaire qui pourraient oui. pouvoir utiliser cette salle-là.
Oui, oui, parce qu'on a une école qui n'est pas très loin aussi à l'Aquarelle, où il y a des classes en adaptation scolaire aussi, dans le fond, qui sont nos futurs élèves.
Bien sûr, c'est
qui
ça.
Qui pourraient se déplacer pour venir tout simplement utiliser là, à l'occasion un peu les installations.
Parce que je comprends, Michel Thibault, en visualisant votre salle de motricité avec les tapis roulants, avec les barres et tout, pour des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage aussi, je parle de TDAH, mais bon, peut-être d'autres types, ça pourrait aussi être très bénéfique de pouvoir utiliser la salle de motricité.
Oui, c'est ça. Je pense, entre autres, peut-être à un élève, peut-être pas TDAH, mais un élève, par exemple, qui aurait eu un accident, qui serait en convalescence, plutôt qu'aller en éducation physique régulière, qui serait retiré, bien, pourrait peut-être aller faire certains exercices pour se renforcer en suivant les normes du médecin. Tout pourrait être possible à ce moment-là.
Ouais. Donc, une toute petite salle qui sert beaucoup et qui amènera de nombreux bienfaits du côté de Rimouski. Michel Thibault, c'est ce que l'on comprend.
Oui.
Vous êtes directrice de l'école Paul Hubert. Ça a été vraiment un plaisir d'en apprendre davantage sur votre belle salle. Merci, Michel Thibault.
Merci, au revoir.
Au revoir. Chantal Desjardins, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes conseillère aux régions et coordonnatrice aux projets spéciaux pour l'appui pour les proches aidants d'aînés. Et on est là ensemble pour parler de ces 20 projets inspirants pour soutenir les proches aidants que vous avez sélectionnés. Ça n'a pas dû être une mince tâche parce que vous avez sélectionné ces 20 projets inspirants parmi plus de 500 projets. Qu'est-ce qui a déterminé votre sélection, Chantal Dupuis?
En fait,
Chantal Desjardins,
oui,
pardon.
De l'appui pour les proches aidants d'aînés. En fait, ce qu'on voulait, c'est qu'on en fait, on finance environ, en moyenne, 300 projets, donc des services par année dans l'ensemble du Québec. Et donc, on voulait pouvoir témoigner de types de services qui étaient offerts aux proches aidants dans l'ensemble du Québec. Et pour les sélectionner, en fait, on a simplement essayé de trouver des types ou des services qui étaient peut-être le plus innovateurs, originaux, et des services qui pouvaient aussi s'adresser dans différents types de lieux. Donc, ça pourrait être autant des lieux plus ruraux, plus des fois dans des villes. Même, il y a des projets qui se déroulent même dans des villages complètement isolés. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça qui nous a fait choisir les types de services. Puis aussi, on voulait représenter les quatre types de services qu'on finance, c'est-à-dire on finance des services de répit, d'information, de formation et de soutien psychosocial.
Oui.
Fait que c'est un peu comme ça qu'on a choisi nos projets.
Et c'était des projets parmi les 500 projets qui avaient été mis de l'avant entre 2011 et 2016.
Oui, exactement.
Quel était l'objectif de créer ce recueil-là, Chantal?
En fait, l'objectif était simple. C'est qu'on veut pouvoir informer le plus de monde possible. Tout d'abord, c'est certain, les proches aidants, parce qu'on veut qu'ils aillent chercher des services. On veut de plus en plus qu'ils s'informent et qu'ils aillent chercher des services pour qu'ils évitent de s'épuiser. Parce que l'une des choses, des proches aidants, bon, d'abord, ils se reconnaissent pas comme tels en tant que proches aidants. Et deuxièmement, c'est qu'ils évitent très longtemps avant d'aller chercher des services et ils attendent jusqu'à la dernière minute et jusqu'à l'épuisement. Donc, nous, on veut faire connaître vraiment les services dans l'ensemble du Québec pour que les gens se gênent pas, se sentent pas coupables et aillent chercher vraiment des services pour les soutenir puis pour leur permettre aussi de garder leurs proches le plus longtemps possible à la maison parce que c'est une des volontés qui avait été exprimée lors d'une grande consultation qui avait eu lieu au Québec qui, d'ailleurs, a fait en sorte que le gouvernement a mis sur pied l'appui pour les proches aidants d'aînés. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'était d'offrir des services à plus de gens possible au Québec.
Oui. Je comprends que le recueil s'adresse, bien sûr, d'entrée de jeu aux proches aidants du Québec, mais c'est une façon aussi d'aller rejoindre tous les organismes qui soutiennent les proches aidants, les entreprises d'économie sociale, pour eux aussi les interpeller et les inspirer à aller peut-être vers des pratiques un petit peu plus innovantes.
Exactement. Vous l'avez bien dit. En fait, oui, ça s'adresse également à des intervenants, mais puis aux organismes dans toutes les régions du Québec pour leur donner des idées, effectivement, comme vous dites, s'inspirer et aller faire des collaborations aussi. Parce qu'on trouve, ce qu'on trouve beaucoup dans le recueil, c'est des exemples de partenariats et de collaborations qui ont eu lieu entre des organismes d'un milieu. Parce que vous savez, souvent, dans un milieu, il y a peu d'organismes et il faut être très créatif pour faire en sorte d'arriver avec un service. Donc, il faut collaborer. Et ça, le recueil, c'est ça, donne beaucoup d'exemples. Des fois, c'est collaborer aussi. Ils collaborent beaucoup aussi avec le réseau de la santé. Donc, chacun fait son petit bout, puis ça, ils parviennent à offrir des services.
Au bénéfice, bien sûr, des personnes aidées.
Oui,
au
tout
final.
À fait. Oui.
Parce que vous avez parlé d'épuisement des proches aidants. C'est vrai que c'est souvent ça qui est souligné, mais il y a l'épuisement aussi des organismes qui les soutiennent, qui est également à risque.
Les organismes comme tels?
Ben oui.
Oui, effectivement. Effectivement, c'est pour ça aussi que nous, on les finance. Puis, dans notre financement aussi, il y a plusieurs aspects qui font en sorte qu'on va les soutenir, d'ailleurs, par la formation, par exemple, la formation des intervenants. Mm-hmm. Donc, on va s'assurer tout le temps que ce soit des projets et des services qui ont une certaine qualité.
Oui. Maintenant, j'ai envie que l'on parle un petit peu plus profondément de ces 20 projets inspirants que vous avez sélectionnés du côté de l'appui. Bien sûr, on ne pourra pas tous les nommer, mais si on regarde les quatre fronts principaux là, que vous mettez de l'avant à l'appui, c'est-à-dire information, formation, répit, soutien psychosocial, est-ce qu'il y en a certains dans ces projets-là que vous avez envie de nous parler davantage, Chantal Desjardins?
Ben oui, je peux vous donner trois exemples. Si on y va d'abord par le répit, parce que souvent, ce qui est le plus demandé d'emblée, c'est le répit. Mm-hmm. Donc, à l'Ensemble du Québec, on offre toutes sortes de services. Ça peut être du répit à domicile, en groupe, du répit stimulation, ça peut être donné le jour, le soir. Donc, il y a différents services. Et peut-être ce qui est important de soulever, c'est que dans chaque région du Québec, les organismes vont offrir un service selon les besoins de leur population. Donc, ça ne veut pas dire que les services dont je vais parler aussi s'offrent dans toutes les régions du Québec. Oui. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en répit à Montréal, il y a le Centre Évasion, Centre de jour alternatif, offre du répit stimulation. Alors, ils en offrent autant à domicile qu'en groupe dans leur centre. Et ils ont la particularité, eux, ils se sont concentrés pour offrir des services de répit à des gens qui auraient un plus faible revenu. Donc, c'est selon leur revenu. Et ou, parce que c'est pas toujours de pair, mais des gens qui seraient issus des communautés culturelles. Mm-hmm. Alors, ils offrent des services autant en français, en anglais, ou dans d'autres langues, lorsque, bien sûr, l'accompagnateur va être disponible. Okay.
Le Centre Évasion à Montréal.
À Montréal. Et ce qui est très intéressant du Centre Évasion, c'est qu'ils ont développé plusieurs activités de stimulation pour la personne qui est en répit. C'est des activités variées, autant physiques, cognitives, culturelles, des activités artistiques. Ils ont fait une très belle collaboration avec le Musée des Beaux-Arts, entre autres, des troupes de danse. Donc, ça permet à la personne, à l'aider, de maintenir, en fait, ses capacités et ne pas dépérir rapidement.
Oui, oui. Alors, une première pratique innovante ici, du côté de Montréal.
Oui, on peut donner un autre exemple, en soutien psychosocial. Par exemple, il y a un projet très intéressant qui se fait par le Centre d'action bénévole Solange Beauchamp à Sainte-Thérèse. Ça, c'est situé dans les Laurentines. Alors, c'est une intervenante qui va se déplacer à domicile ou au bureau de quelqu'un, à l'endroit où la personne le souhaite, parce que les gens ne sont pas toujours disponibles pour aller chercher du soutien. Donc, la personne, cette intervenante-là, va se déplacer et va aller, donner du soutien, mais de l'information, de la formation, et va suivre le proche aidant tout au long de l'évolution de la maladie de l'aider. Ouais. Donc, et il va s'adapter. Donc, c'est très versatile, autant pour des gens, par exemple, qui travaillent et qui n'ont pas le temps. Donc, la personne peut aller les rencontrer sur l'heure du midi. Mais souvent, ce que me disait l'intervenante, ça va être les gens qui sont très âgés vont avoir recours à ces services. Parce que, souvent, ce qu'on voit dans un couple, exemple type, le conjoint et la conjointe ont tous les deux quand même sont certains d'avancer en âge, 70-75 ans, c'est très beaucoup plus difficile de se déplacer. Les gens, ont perdu leur permis de conduire, etc. Ouais. Donc, c'est un service qui est très apprécié pour sa flexibilité. Et c'est un service qui est gratuit aussi.
Oui. Chantal, on fait comment pour savoir si l'initiative ou le projet est disponible dans notre région? Parce qu'on comprend que vous couvrez toute la province.
Effectivement, comme je vous disais tantôt. Et d'ailleurs, on a développé un appui, donc un organisme appui par région. Et nous avons un site web, donc si vous voulez vous savoir quel type de service qui est disponible dans votre région, donc vous pouvez aller sur notre site internet à www.l'appui.org, l'appui en un mot, L-A-P-P-U-I. Donc, vous pouvez vous cliquez sur l'onglet bleu qui est en haut à droite et vous pouvez choisir votre région. Et là, vous avez tous les types de services. Donc, vous avez juste à cliquer si vous voulez du répit, si vous voulez du soutien. Et vous allez avoir la liste des services qui sont disponibles dans votre région.
Et ce qui est important aussi de mentionner, c'est que Ce recueil des 20 projets inspirants est téléchargeable gratuitement aussi sur votre site. C'est une centaine de pages, donc c'est assez costaud comme document, mais très utile pour, bien sûr, les proches aidants qui ont envie de s'inspirer, mais aussi les organismes qui pourraient aller chercher de belles idées dans ce recueil-là.
Exactement.
Maintenant, j'ai envie, parce que, bon, ça fait partie des initiatives de l'appui, ce recueil des 20 projets inspirants. Vous avez aussi d'autres ressources que vous mettez à la disposition du grand public, des proches aidants, des familles, dont la ligne Info Aidant. Je trouvais ça important d'en parler avec vous aujourd'hui, Chantal Desjardins. Cette ligne-là, elle consiste à quoi?
Oui, tout à fait. Alors, le service Info Aidant, c'est une ligne d'écoute téléphonique. C'est une ligne qui donne de l'information, du soutien et des références. Alors, si vous me permettez de donner le numéro, alors c'est 1-855-8-LAPPUI ou en chiffres, c'est toujours plus facile, donc c'est 1-855-852-7784. Alors, c'est une ligne partout au Québec et vous allez avoir un service qui est aussi personnalisé selon votre région pour avoir les ressources de votre région. Donc, vous pouvez, que vous soyez proche aidant ou quelqu'un qui est dans la famille ou même un intervenant, si vous avez quelques questions que vous vous posez concernant la proche aidance, ce sont des intervenants formés qui répondent à vos questions, que ce soit concernant d'ordre légal, des procédures pour, par exemple, trouver une ressource d'hébergement, comment on fait pour entrer dans le réseau de la santé, peu importe les questions. Alors donc, les intervenants sont vraiment spécialisés pour répondre à toutes les questions des proches aidants. Oui. Et ils sont rappelés très rapidement suite à un appel d'un proche aidant.
Oui, parce que, bon, au Québec, on ne l'a pas dit parce que, bon, c'est quelque chose que l'on nomme souvent. Plus d'une personne sur cinq est proche aidant d'aîné et tout ça ne va pas aller en s'amenuisant, Chantal Desjardins.
Non, tout à fait. Et écoutez, je suis bien contente de vous l'entendre dire parce que vous le savez, d'ici 2030 environ, puis c'est pas loin, hein, c'est seulement dans 13 ans environ, le quart de la population va être composé de personnes de 65 ans et plus. Et ça, c'est énorme comme pression sur une population, sur son fonctionnement. Et la plupart des gens, déjà on le voit, ou la plupart des gens, très bientôt, on va toujours connaître ou même être un proche aidant soi-même. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rapidement s'en préoccuper, mais aussi offrir des services parce que les personnes ne pourront pas répondre à leurs personnes malades ou leurs aidants. Et en même temps, c'est une pression énorme sur le système de santé et les gens eux-mêmes.
Et c'est ça sur les familles, voilà.
Sur les familles, puis les gens eux-mêmes ne veulent pas être hébergés. Enfin, le plus loin possible. Hein.
Oui. Et ne serait-ce que, on va se laisser là-dessus, mais c'est la boucle de notre discussion, ne serait-ce que de s'identifier comme proche aidant, c'est la première étape, et vous l'avez dit, parfois, on s'en rend même pas compte qu'on prend ce rôle-là.
Et voilà, parce que souvent, ben on dit, ben non, c'est mon mari, non, c'est mon père.
C'est mon enfant, ou bon, ben, peut-être pas moins dans votre cas, puisque c'est des proches d'aînés, mais quand même, ça fait partie du rôle de proche aidant.
Tout à fait, parce que aussi, la plupart, aussi 60% sont des femmes qui sont proches aidantes au Québec. Souvent, ils ont encore des enfants, donc ils ont beaucoup de tâches, et on rentre vite dans la roue, hein, donc, puis on s'aperçoit plus... du rôle qu'on tient et les multiples rôles qu'on tient.
Ouais. On s'en aperçoit quand on est épuisé, il est souvent
trop tard. Voilà, et c'est ce que nous, on veut pallier.
Chantal Desjardins, vous êtes conseillère aux régions et coordonnatrice aux projets spéciaux pour l'appui pour les proches aidants d'aînés. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Bien, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Dernier segment de cette émission, c'est mon coup de cœur et j'avais envie de vous parler d'une plateforme web que vous connaissez peut-être ou pas, Wix Mag. Pourquoi c'est un nom aussi amusant? Ben parce que ça s'adresse aux parents de jeunes de 5 à 13 ans, à ces jeunes-là aussi. Donc, on parle ici de pré-ado Wix Mag, W-I-X-X-M-A-G. Aux parents, aux jeunes, mais aussi à tous les adultes signifiants, enseignants, entraîneurs, intervenants. La mission qui est, je trouve, fort intéressante et utile, donner aux jeunes le goût de bouger, d'être actifs tous les jours dans des activités qui sont diversifiées. On ne parle pas juste d'activités sportives, mais des activités physiques, de bien manger, encore là, de façon diversifiée, parce que bien manger, ça sous-entend aussi un équilibre, et tout ça avec du plaisir. Donc, l'objectif de la plateforme a été au départ de cibler qu'est-ce qui causait la sédentarité des jeunes, d'examiner un petit peu le profil des jeunes, les habitudes de vie, mais surtout de trouver des solutions pour résoudre les problèmes liés à la sédentarité et apprendre les saines habitudes de vie et toujours, je le rappelle, dans le plaisir. Donc, il y a différents onglets sur le site. On va s'intéresser autant à l'alimentation, comme je le disais, mais aussi à la techno, aux jeux, aux loisirs, aux sports, aux activités physiques. Il y a des activités concrètes à faire à la maison, donc ça peut coûter peu de sous, autant des lieux pour aller bouger, des applications web, tout ça dans un langage accessible pour les parents, on se prend pas la tête. Donc, www.wixmag.com pour avoir vraiment une panoplie de propositions, d'activités, de recettes qui seront vous amuser, vous aider et aussi aider vos pré-ados. On le sait, c'est une période qui est parfois un petit peu plus délicate. Wixmag. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission. C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres. C'est Jean-Sébastien La Liberté derrière sa console. Martin Forgue à la recherche. Christiane Campagna aux médias sociaux. On vous invite à réagir sur nos différentes plateformes Twitter, Facebook. Marianne Paquette au micro qui vous salue. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.